Audible Studio présente Les Chroniques de Nietzsche, tome 4, Cœur de glace noire, de Terry Goodkind, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Vincent Deboire. Chapitre 1er. Sur le flanc d'une colline boisée, Nathan observait l'armée du général Outros, toujours aussi impressionnante malgré de lourdes pertes. Sous le couvert de chênes malingres et de pins ratatinés, le vieux sorcier aux cheveux en bataille portait sur son pantalon noir et sa chemise à jabot une longue tunique blanche déchirée et souillée après son combat contre d'antiques et improbables ennemis. Quoi qu'il arrive, Nathan n'abandonnerait pas. Même si Ildakar avait disparu, ses résistants et lui étaient encore vivants. Réveillé d'un long sommeil minéral, des soldats grouillaient dans la vallée, prêts à fondre sur l'ancien monde. 15 siècles plus tôt, Outros, un général de légende, avait assiégé Ildakar, la cité aux grands murs d'enceinte, aux jardins magnifiques et aux bâtiments étincelants. Grâce à un sort génial, les sorciers d'Ildakar avaient transformé en pierre leurs agresseurs. Jusqu'à très récemment, des statues se dressaient dans la plaine. Le sortilège dissipé, les guerriers de jadis repassaient à l'attaque. Pour sauver leur ville, les sorciers actuels avaient dissimulé derrière le linceul de l'éternité. Mais Nathan et ses compagnons étaient restés coincés à l'extérieur, une poignée de défenseurs face à une armée assez puissante pour conquérir le continent.
« Par les esprits du bien !»
souffla Nathan. Passant les doigts dans ses longs cheveux blancs, il en chassa des brindilles. Cette armée lui rappelait le jour où les hordes de Jagang s'étaient déversées dans les plaines d'Azrit, au pied du palais du peuple. Se souvenant que ses forces avaient fini par perdre, le vieux sorcier sentit son moral remonter en flèche. Mais à l'époque, Richard Rahl combattait à ses côtés, tout comme Nietzsche. La dame abbesse Verna tira sur sa jupe, puis s'assit sur un rocher couvert de mousse.
Quand mon groupe a quitté Surplomb du Monde, dit-elle, nous ne nous attendions pas à tomber sur une immense armée. Notre espoir, c'était simplement de trouver Ildakar.
Ildakar n'est plus là,
marmonna le sorcier reine en émergeant des broussailles. Se tenant à une branche malingre, il fixa l'endroit au-delà du camp ennemi où trônait naguère sa glorieuse ville. Le front plissé, il frotta la manche tachée de sève de sa tunique.
Les sorciers ont mis Ildakar à l'abri du temps lui-même, sans une pensée pour ceux qui étaient dehors. Au moins, ils sont en sécurité à présent. Enfin, je suppose.
Nous devons tirer le meilleur de notre situation, dit Nathan, autant pour s'en convaincre que pour en persuader les autres.
En réalité, il se sentait plus abandonné qu'eux, car il avait perdu davantage qu'une ville. Les zones brûlées sur le champ de bataille lui rappelaient l'héroïque sacrifice de sa chère Elsa, morte dans une explosion de magie de transfert. Avec elle, Elsa avait emporté des milliers de soldats d'Outros. Une victoire en termes purement tactiques, mais obtenue à un prix trop élevé. Dans son cœur flambant neuf, Nathan éprouvait bien plus de tristesse que d'exaltation. Après s'être réfugié sur le flanc d'une colline, ses compagnons et lui étaient tombés sur l'expédition partie de Surplomb du Monde. Une sacrée surprise, ça. Verna, une poignée de sœurs de la lumière et plusieurs érudits étaient escortés par un détachement de soldats d'Aran sous les ordres du général Zimmer. Ses renforts, cependant, ne pesaient rien face aux troupes d'Outros. À force de se battre sans cesse et sans faillir, Nathan n'avait pas encore eu le temps de penser pour de bon à tout ce qu'ils avaient perdu.
« Comment Nietzsche nous retrouvera-t-elle? Et où ira-t-elle puisqu'Ildakar a disparu? Quand elle reviendra de Sirimundi, où la déposera la Slif ?»
Transportée par la créature de vif argent, la magicienne était allée prévenir les habitants de la ville côtière du danger qui menaçait l'ancien monde. Ildakar volatilisée, elle serait seule face à l'armée ennemie.
« Nous ne cracherions pas sur l'aide de Nietzsche, »
concéda Verna.
« Cela dit, nous ne sommes pas impuissants, il ne faut pas l'oublier. »«
Et je ne l'oublie pas, très cher, mais nous n'avons pas perdu que la seule Nietzsche. »
Qu'était-il arrivé à Bannon, qui ferraillait à l'intérieur de la cité au moment de sa disparition? Avec un peu de chance, l'intrépide jeune homme était à l'abri derrière le linceul. Nathan s'assit près de Verna.
« Je ne m'attendais pas à des retrouvailles, » marmonna-t-il. « Après que j'ai lutté des siècles pour échapper aux sœurs de la lumière, nous voilà réunis. »«
Oui, réunis, »
fit Verna avec un sourire plein de lassitude. Sans y penser, elle rejeta derrière son oreille gauche une mèche de cheveux bruns striés de gris.
« Nathan, nous ne pouvons pas rester ici. »«
D'accord, mais où aller ?» demanda Ren. « On fiche le camp, c'est tout. De fait, contre Outros, nous n'avons pas la moindre chance. »
Ses cheveux blonds nattés reposant sur une épaule, le seigneur Auron approcha. Les joues maculées de sang après la bataille, il restait hautain et distant.
« Que faire ?» demanda-t-il. « Nous ne pouvons pas devenir une bande de vagabonds. Pour affronter Outros, devons-nous créer notre propre conseil des sorciers ?»«
Un conseil très restreint, »
marmonna Ren morose. « Si on oublie tous les détenteurs du don présent dans nos rangs, » fit Verna, « mes sœurs de la lumière et les érudits de surplomb du monde ne comptent pas pour du beurre. » Dame Olgia vint se camper à côté d'Auron. Pour combattre, elle avait revêtu une tenue de camouflage taillée dans un tissu très résistant produit par ses vers à soie à Ildakar.
« Personne ne compte pour du beurre, » dit-elle. « Mais nous ne pouvons pas rester tapis dans les broussailles à regarder l'ennemi parader. Quel est le plan ?»
Nathan s'avisa que tout le monde le regardait.
« Donc c'est moi qui commande désormais. Vous allez me donner du sorcier en chef ?»
Une situation paradoxale, sachant qu'il avait été privé de son don jusqu'à très récemment.
« Je n'ai jamais demandé ce poste. »
Stoïque, comme toujours, Rendel, un esclave affranchi depuis peu, distribua des rations de nourriture séchée.
« C'est ce que j'ai de mieux, puisqu'on ne peut pas prendre le risque d'allumer des feux de cuisson. »
Avec d'autres anciens esclaves, le vieil homme avait combattu pour la ville. Au péril de leur vie, ces héros avaient permis à Elsa de dessiner ses runes de transfert sur le sol. Comme Nathan et les autres, Rendel était coincé à l'extérieur d'Ildakar. Habitué à de fastueux banquets, Auron accueillit d'une grimace ce que lui proposait Rendel. Nathan ne fit pas la fine bouche et goba les fruits secs sans se lamenter.
« J'aime la bonne cuisine autant que vous, » dit-il. « Et je préfère être propre et dormir dans un bon lit, mais, au vu des circonstances, je veux bien consentir quelques sacrifices. »«
Devons-nous mettre au point un plan visant à détruire cette armée ?»
demanda Léo, un autre détenteur du don désormais coupé d'Ildakar. Si ses yeux brillaient de détermination, son sourire semblait forcé.
« Par où commencer ?»«
L'agneau aurait eu des idées brillantes. »
murmura Ren, le regard rivé sur l'emplacement où se dressait naguère la ville.
« Hélas, je ne la reverrai plus. Au moment de mon départ, elle était une statue, la punition infligée par la souveraine Atora. Mais le sort aurait faibli un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'elle me manque ?»
Au fil du long voyage, une authentique épreuve, le sorcier grassouillé avait perdu du poids. Visage moins bouffi, il flottait dans sa propre peau.
« J'aurais aimé reparler avec elle après tous ces siècles. Qui sait si nous pouvons traverser le linceul ?»«
Lani a été tuée par les magiciennes jumelles d'Outros, »
coupa Auron, fidèle à sa réputation de brusquerie.
« Personne ne le lui a dit. »
Ren devint blanc comme un linge.
« Morte ?»
répéta-t-il comme si Auron parlait une langue étrangère.
« Nathan, que raconte-t-il ? »
Pour sa dureté de cœur, le vieux sorcier aurait volontiers fichu le feu aux cheveux du noble.
« Reine, navrée, mais je crois qu'il dit vrai. Elle est morte, je le crains. Alors qu'elle espionnait le camp ennemi grâce à de l'eau, Ava et Ruva ont retourné son sort contre elle. Elles l'ont noyée. Avec Elsa, nous avons tenté de la sauver, mais c'était trop tard. »
Reine se prit la tête entre les mains et souffla.
C'était mon ultime lueur d'espoir. Je l'attendais, je la protégeais, je la pleurais. Elle, oh, eh bien, elle comptait beaucoup pour moi.
Je suis désolé que tu ne puisses plus la revoir,
fit Nathan.
Une femme courageuse et forte. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait.
L'heure n'est pas aux sanglots,
coupa Olgia impatiente.
« Des centaines de personnes sont mortes et nous avons tous souffert. Pensez à Brock, mon fils, et celui d'Auron. Comme lui, des milliers d'autres soldats sont tombés alors que leurs proches avaient encore besoin d'eux. Il n'existe pas de défunt dont tout le monde se fiche. »
Ren foudroya l'arrogante du regard.
« Ça ne me console en rien. C'est normal, mon ami, dit Nathan, pensant à Elsa et à ce qu'elle promettait de représenter pour lui.
Pour cette raison, nous devons frapper très fort nos ennemis.
Des cris montant de la forêt derrière eux, Nathan se leva d'un bond et sa main vola vers la poignée de son épée. Tout autour, les hommes de Zimmer se regroupèrent pour former un cercle défensif. Des silhouettes jaillirent des ombres.
« Préparez-vous !»
cria Zimmer, bouillant dans des coudres.
« Ils arrivent !»
Trois jeunes gens couraient vers Nathan et ses compagnons. Oliver et Peretta, deux érudits de surplomb du monde, et Ambre, une novice de Verna.
« Ils sont à nos trousses !»«
On les a amenés jusque-là !»
lança Peretta.
« Maintenant, à vous de jouer !»
Malgré la gravité du moment, son espièglerie coutumière faisait briller ses yeux. D'autres sons et des cris étouffés montèrent de la forêt. Attirés par le trio de fuyards, une vingtaine de soldats ennemis jaillirent des broussailles qu'ils taillaient à grands coups d'épée. Sur leurs cuirasses, tous arboraient l'antique flamme de l'empereur Kourgan. En leur servant de proie, Oliver, Peretta et Ambre les avaient attirés dans un piège.
« Il y en a d'autres !»
cria un type armé d'une lame recourbée.
« Massacrons-les !»
Jaillissant du groupe de défenseurs, deux maurassites se ruèrent aux avant-postes. Chacune portait une large bande de cuir sur les seins et leur peau était couverte de runes.
« Nous vous laisserons tuer quelques hommes !»
cria Thorn à Nathan.
« Mais pas tous !»
Une épée courte dans une main, elle serrait une dague dans l'autre. Plongeant sa lame principale dans le ventre d'un attaquant, elle éclata de rire.
« Et voilà, ça en fait un pour moi !»
Pour ne pas être en reste, sa collègue, Liesse, fit claquer un fouet dont la lanière barbelée s'enroula autour du cou de taureau d'un soldat. Tirant d'un coup sec, elle déchiqueta la gorge du malheureux.
« Et un autre pour moi !»
rugit-elle. Main tendue, Nathan foudroya un des agresseurs avec du feu de sorcier. Face aux flammes que rien n'arrêtait, la cuirasse du type flamba comme du parchemin, puis se fut autour de son torse. Poussant leurs cris de guerre, les hommes de Zimmer chargèrent. Dès que les épées s'entrechoquèrent, l'enfer se déchaîna. Dans une telle mêlée, le feu de sorcier aurait tué ami comme ennemi. Tandis que Nathan se retenait d'y recourir, Verna utilisa son don pour arracher à un arbre une lourde branche qui s'écrasa sur un soldat d'Outros. Auron, Olgia, Léo et Ren invoquèrent un vent furieux qui projeta plusieurs guerriers contre les troncs environnants. Face à une telle résistance, les soldats s'appuyèrent sur leur rigoureux entraînement militaire. Alors que les Morassites faisaient à deux presque autant de dégâts qu'une armée, les Darans s'organisèrent pour se montrer aussi efficaces qu'elles. Tandis que des blessés s'écroulaient, Nathan remarqua un détail surprenant. Jusque-là, les revenants étaient encore partiellement en pierre, leur chair grisâtre et dure. À présent, ils semblaient aussi humains que n'importe qui. Une bonne nouvelle, puisque ça les rendait plus faciles à tuer. Fendant les cuirasses, les Darans taillaient dans le vif et leurs antiques opposants succombaient aussi vite que des mortels lambda. Léo et Perry, un sorcier et une magicienne, usèrent de leurs dons pour transpercer le torse de plusieurs soudards avec des branches volantes. Pris par l'action, Rendel sortit un couteau, sauta sur un soldat assommé, lui retira son casque, puis lui trancha la gorge. Quand il repéra un assaillant isolé, Nathan recourut au feu de sorcier pour lui carboniser la tête sur les épaules. En un éclair, les 20 revenants furent renvoyés définitivement au néant. Les Morassites rugirent de triomphe.
« 3 pour moi !»
cria Liesse.
« Pour moi aussi !»
lui fit écho Thorn.
« 20 en tout !» s'écria Nathan. « 2 dizaines de soldats en moins pour Outros !»«
Il ne s'en apercevra même pas !» soupira Verna.
D'autant qu'il n'a pas encore fini de compter ses pertes précédentes,
lâcha Auron.
Quoi qu'il en soit,
jubila Reine,
20 soudards morts, ça en fait 20 de moins.
Tandis que les Darans essuyaient leurs lames et leurs cuirasses rouges de sang, Zimmer vint les féliciter.
Tant que nous n'aurons pas un meilleur plan, tailler en pièces suffira comme consigne. Peu à peu, nous éclaircirons les rangs de ces chiens.
Si le destin nous est favorable,
modéra Dame Olgia. Nathan rengaina sa lame qu'il n'avait même pas dû utiliser. Après une si longue abstinence, il ne ratait pas une occasion de recourir à sa magie.
« Quoi qu'il en soit, conclut-il, c'est un bon début. »